Eh bien, bonjour à tous et bonjour surtout à Isabelle Autissier qui nous fait le plaisir de venir nous parler un petit peu de son deuxième roman, L'Amant de Patagonie, paru chez Grasset. Bonsoir à vous, bienvenue.
Bonsoir, merci, bonsoir à toutes et à tous.
Alors, avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous poser quelques petites questions en fait sur vous, enfin sur vos activités surtout, puisque comme on le sait, donc vous êtes la navigatrice qu'on connaît et aussi présidente de la WWF. Où est-ce que vous avez trouvé le temps d'écrire des livres?
Alors des fois je suis obligée de me cacher un peu hein, pour que personne ne sache que je suis là. Non, c'est vrai que j'ai une vie qui est quand même assez remplie, qui est quand même en gros 7 jours sur 7 quoi, hein. Il n'y a pas trop de samedi ou de dimanche, mais c'est bien parce que je fais des choses que j'adore. Pour l'Amant de Patagonie, en fait j'ai rusé. Parce que d'habitude, tous les ans, depuis 7 ans, depuis que j'ai mon bateau à Ushuaïa, je vais naviguer là-bas pendant l'été austral, donc décembre, janvier, février. Et puis, j'y retourne un peu au mois d'août parce que c'est l'hiver et que j'adore l'hiver en Patagonie, c'est sublime. Donc tout le monde a l'habitude que je parte au mois d'août. Donc l'année dernière, j'ai fait comme si que, comme diraient les enfants. J'ai pas dit que je partais pas, j'ai fait comme si je partais. Et sauf que je suis restée à La Rochelle et que du coup le téléphone a quasiment pas sonné parce que tout le monde croyait que j'étais en mer là-bas et que ça m'a permis de prendre vraiment un mois pour vraiment démarrer ce livre. Ça faisait 2 ans que je le portais un peu, que j'avais beaucoup lu, que je m'étais beaucoup documentée, mais j'avais besoin d'un moment un petit peu ramassé sans trop de sollicitations pour vraiment rentrer dans l'histoire et commencer vraiment l'écriture.
Et vous l'avez écrit entièrement chez vous ?
Non, alors après, dernier trimestre de l'année, j'ai trouvé des petits moments de temps en temps. Alors c'est le soir, le matin, dans le train, bon voilà. Et je l'ai corrigé en mer, puisque je suis repartie naviguer en janvier-février. Mais c'était une navigation un peu particulière, parce que contrairement aux autres années où j'allais en Antarctique, dans les îles australes ou dans des coins difficiles, cette année, le bateau rentrait à La Rochelle pour travaux. Donc, partant d'Ushuaïa, je savais qu'on allait assez vite se retrouver dans des endroits un petit peu plus civilisés du point de vue de la navigation, on va dire. Et puis, j'avais un bon équipage. Donc, je savais que j'aurais un petit peu plus de temps. Et donc, j'ai corrigé le livre en mer. Donc, en me collant dans un coin de la cabine avec mon petit ordinateur. Et voilà, ça l'a fait, comme on dit.
C'est donc un roman qui a voyagé et qui nous fait voyager, surtout. Et donc, si on remonte un petit peu en arrière, donc pour votre premier roman qui s'appelait « Seule la mer s'en souviendra », donc nous avions l'histoire de Peter March qui se lançait un défi, celui de participer à une course en solitaire sans escale. Donc là, avec l'Amant de Patagonie, vous dérivez vers un élément que vous connaissez le moins quand même, enfin, que vous connaissez le moins, que vous ne connaissez pas encore... encore moins que l'eau, on va dire. Vous partez sur la terre. Comment vous est venue l'envie, en fait, d'écrire un roman tel que celui-ci ?
Alors d'abord, il y avait l'envie de parler et de partager mon bonheur, il faut le dire, de cette Patagonie du Grand Sud, quoi. Donc on est en terre de feu, très près du Cap Horn, les îles du Cap Horn, le canal du Beagle, Ushuaïa, tous ces coins-là. Moi, j'adore vraiment ces endroits. Ça fait 7 ans que j'y vais très régulièrement. J'ai un peu l'impression que c'est presque un deuxième chez moi. Et j'aime cette nature, son côté imprévisible, parfois un peu difficile, mais en même temps grandiose, très sauvage. Et donc voilà, donc j'avais envie d'écrire quelque chose qui se passe là-bas. J'avais envie de parler de cet endroit. Et puis, j'ai eu assez vite envie de parler des Indiens, parce que quand on est là-bas, forcément, on pense à un moment ou à un autre à eux. Parce que d'abord, on a des histoires dans la tête, hein, les Indiens tout nus sous la neige et tout ça. Et puis parce que de temps en temps, quand on se balade, on trouve un amas de coquilles, un empilement de coquilles. Enfin, c'est carrément des murs de coquilles. On trouve, quand on a un peu l'habitude, on repère des anciennes traces de huttes ou des choses comme ça. Et quand même, on se dit, mais ces gens-là... ces gens vivaient là dans des conditions qui aujourd'hui évidemment sont très précaires. Donc voilà, on s'intéresse à eux et puis en même temps on se dit en moins d'un siècle, ces peuples ont totalement disparu. Donc qu'est-ce qui s'est passé finalement entre en gros Donc les tout premiers blancs qui s'installent, les pasteurs, ils s'installent aux alentours de 1870. La dernière, Yamana, meurt en 1984. Donc en à peine plus d'un siècle, ces peuples, les quatre peuples qui étaient en terre de feu, disparaissent totalement. Donc c'est quand même... voilà, on a envie de comprendre un peu ce qui s'est passé, quoi.
C'est ce qui vous a fasciné, en fait,
Oui,
dans ce
alors il y a plusieurs choses. Il y a donc d'une part... comment ces gens, comment ces peuples vivaient dans la nature. Et je me suis assez vite rendu compte de cette opposition quand même qui était très forte entre les deux civilisations. Moi, je porte pas de jugement, mais la civilisation des Blancs européens et la civilisation de ces cueilleurs-chasseurs indiens. Une des choses importantes, ça tient à la vision qu'ont l'une et l'autre de ces sociétés de la place de l'homme dans la nature ou de la place de la nature par rapport à l'homme. Pour les cueilleurs-chasseurs, l'homme est un élément de la nature. Il en fait partie au même titre que les plantes et les animaux. Donc c'est pas bizarre de parler avec des plantes et des animaux puisqu'on est au même niveau. Par contre, on a une gestion de la chasse et de la cueillette qui est très parcimonieuse parce qu'on va pas faire du mal entre guillemets plus qu'il n'en faut. On a besoin de vivre, mais voilà. Donc c'est une notion quand même d'intégration totale. Les blancs, à travers essentiellement la religion, ont au contraire une vision de l'homme supérieur à la nature, investi par Dieu d'une mission d'organiser la nature, de lui faire rendre ce qu'elle a à rendre pour le compte des hommes et pour le bien des hommes, et donc d'une dualité, d'une séparation entre l'homme et la nature. Et je pense qu'au fond, c'est un peu ce qui se joue et qui s'est joué dans cette partie du monde comme bien d'autres, cette rencontre de deux conceptions extrêmement différentes. Et ça m'a intéressé de creuser un petit peu et de voir comment finalement ça s'appliquait au quotidien, comment les uns et les autres vivaient et ce qui était une des raisons du conflit, bien sûr.
Et ça ne vous intéresse pas d'écrire un roman ou autre sur la Patagonie actuelle ?
Ah, ça aurait sans doute pu aussi. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai puisé quelques petites choses, mais vous ne le savez pas, vous ne le saurez pas, dans des expériences très actuelles que j'ai pu faire de la Patagonie. Le lieu, par exemple, où elle va vivre une partie de sa vie, la deuxième partie de sa vie, Utulia, ne s'appelle pas Utulia, mais c'est un vrai endroit de Patagonie que j'aime énormément, que j'ai décrit tel qu'il est, et où aujourd'hui... Ça aurait pu être le sujet d'un roman, mais je m'en suis un petit peu inspirée. Habite un couple tout à fait improbable. Lui n'est pas indien, mais c'est un gaucho, un chilien. Donc il a tout vraiment du gaucho, le petit trapu avec le béret. Il fabrique ses selles de cheval. Il va chasser les animaux sauvages, les vaches sauvages et les chevaux sauvages. Enfin, c'est vraiment un homme de la pampa et de la forêt. Il a rencontré une esthéticienne néerlandaise. Voilà. Ils vivent tous les deux dans cette cabane en terre battue. Voilà, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas. Voilà. Ils sont parfaitement heureux, c'est une magnifique histoire d'amour. Voilà, cette histoire-là m'a un peu traversée aussi en même temps que j'écrivais, parce que je crois qu'au fond, ce genre d'histoire, des rencontres comme ça, elles ne sont pas marquées par le saut du temps et elles ont pu exister. Donc, j'aurais pu raconter une histoire contemporaine. Après. Moi, j'ai un petit côté, j'aime bien l'histoire, et ce premier choc entre les deux peuples m'a aussi intéressée, donc c'est pour ça que je l'ai situé en 1880.
D'accord. Justement, entrons dans la fiction. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'amant de Patagonie ?
En gros, donc, ça se passe en 1880 à la fondation d'Ushuaia. Ushuaia, ça c'est la réalité, est fondée par un pasteur protestant, donc originaire d'Écosse. Les Anglais avaient cartographié un peu cette région. D'ailleurs, Darwin avait fait un voyage sur le Beagle qui donnera son nom au canal. Donc les Anglais connaissaient cette région d'un point de vue physique. Et bien sûr, comme souvent, dans le sillage des marins et des savants, arrivent les missionnaires. Et donc, les premiers à s'implanter réellement en Patagonie avec pas mal de difficultés d'ailleurs, ce sont ces missionnaires. Et ce roman donc, se passe à ce moment-là. L'héroïne principale, Emily, c'est une jeune fille, c'est une petite paysanne écossaise qui se retrouve, comme ça devait arriver souvent à l'époque, qui se retrouve orpheline assez jeune, qui sera recueillie par un pasteur écossais et qui là va entendre parler de ces messieurs nos missionnaires, hein, parce que chaque pasteur avait ses missionnaires un peu partout dans le monde pour lesquels on faisait des collectes d'argent, de vêtements, de tas de choses. Et elle, qui est une petite fille amoureuse de la nature, qui étouffe un peu quand même chez ce missionnaire, on va lui proposer à un moment donné de devenir la gouvernante des enfants du pasteur d'Ushuaïa, qui a créé Ushuaïa. Et donc, comme elle a le goût de l'aventure, elle part. Et elle part avec toutes les idées qu'on peut avoir à l'époque quand même sur le fait que les Indiens, ils sont affreux, ils sont menteurs, ils sont voleurs. Bon, on peut arriver à les apprivoiser un peu, mais enfin voilà. Et elle va arriver là-bas, être d'abord subjuguée par cette nature qui l'émeut énormément. Et du coup, elle va s'intéresser aux Indiens au-delà d'un premier contact où elle arrive avec tous ses a priori et au début elle va être un peu impressionnée et puis finalement elle va s'intéresser à eux parce que elle va s'intéresser à leur capacité à vivre dans cette nature et donc petit à petit en s'intéressant à eux elle va s'intéresser à un en particulier Aneki, avec qui elle va vivre une histoire d'amour qui va l'emmener donc vraiment du côté des Indiens. Elle va vivre avec eux pendant un certain temps, puis revenir. Enfin, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais donc voilà. Donc elle est un peu le terme de passage, on va dire, le fil conducteur pour découvrir à la fois la vie de ces missionnaires qui était quand même assez extraordinaire, et puis surtout la vie des Indiens et ce qui se passe entre les uns et les autres, et au fond, pourquoi les Indiens ne sont absolument pas armés pour faire face à une civilisation blanche qui est extraordinairement organisée, puissante, ingénieuse, qui a des théories, des outils, des l'écriture, et évidemment, des civilisations de cueilleurs-chasseurs en face ne vont pas faire le poids, quoi.
C'est certain. Et justement, ce jeune personnage, Émilie, qui effectivement est très, comment dire, très vive, très, très passionnée, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de vous dans ce personnage?
Toute ressemblance avec des personnages. Oui, il y a forcément, enfin bon, je pense que voilà, on partage certainement cette curiosité quand même, cet intérêt pour les gens, les choses, les lieux, voilà. Après, moi je l'ai voulu quand même, elle est quand même très exaltée, hein, même à un moment donné, elle est presque proche d'une expérience chamanique, hein, elle va se laisser embarquer comme ça, elle est très jeune, elle arrive à 16 ans, elle va s'échapper avec son petit fiancé, elle en a à peine 18, donc voilà, elle est dans une espèce d'énergie de la jeunesse où tout paraît possible, où tout, moi j'ai peut-être un petit peu plus de recul sur les choses aujourd'hui, vu mon grand âge, mais oui, je crois que voilà, et très certainement, quand elle décrit ce paysage qui la subjugue, moi, il y a un petit peu, bien sûr, de mes propres émotions en voyant ces endroits-là.
Et sans trop en dire, pour pas trop révéler le roman, ce personnage, Émilie, vous lui faites subir énormément de malheurs quand même. C'était pas dur de lui faire subir tout ça?
mais je crois que la vie était dure. Enfin, même si elle était restée en Écosse, la vie des gens était dure. Les gens, même en Europe, ils avaient froid, ils avaient faim, ils avaient des tas d'accidents, ils avaient des tas de maladies. Alors encore plus quand ils étaient au bout du monde, ils sont là-bas, il n'y a évidemment pas de médecins, il y a évidemment, voilà, ils sont livrés à eux-mêmes dans un environnement qui est quand même très très dur, rigoureux. Bah, les tribus, c'est pas non plus les bisounours, quoi. Hein. Il y a des gens formidables, et puis il y a aussi des gens qui le sont moins, et puis il y a aussi des guerres, et puis il y a aussi. Voilà, c'est la vie. Et la vie à cette époque, j'avais pas. Je pense que je suis plus proche de la réalité, d'ailleurs, de ce que j'ai pu lire, hein, des histoires des uns et des autres, des témoignages qu'on a eu des pasteurs, c'est que oui, la vie était dure. Donc. il va lui arriver un certain nombre de problèmes. On dirait, d'une certaine façon, elle les cherche un petit peu quand même aussi. Hein. Elle ne se conforme pas tout à fait au modèle. Elle prend des risques. Avec les risques, quand on en prend, ben, ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Il y a des fois, on essuie un peu les pots cassés. Elle est un peu les pots cassés. Donc voilà. Mais au fond, à travers toutes ces épreuves, elle va se construire quand même. Et je crois quand même qu'à la fin, elle trouve son bonheur et son apaisement. Peut-être d'avoir surmonté toutes ces choses-là, hein, parce qu'après tout, les épreuves nous construisent tous, et c'est son cas à elle.
Oui, en même temps, si lui n'était rien arrivé, il n'y aurait pas eu d'histoire. Mais justement, parce qu'effectivement, heureusement pour elle, elle finira par trouver une sorte d'équilibre, comme vous dites, de bonheur. Est-ce que c'est vraiment dû à son expérience, ou à la Patagonie, ou vraiment à cette vie, comme vous disiez, d'indienne, et à cette expérience un peu chamanique, en fait, qui la poursuit peut-être toute sa vie.
Moi, ce qui m'a intéressée dans la fin du roman, c'est au fond la question des racines. C'est une déracinée. Elle est déjà déracinée deux fois. Elle est orpheline, elle est adoptée. Et ensuite, de fillette adoptée, elle va rester quelques années en Écosse. Elle va être encore transplantée à Ushuaïa, puis encore dans la tribu des Yamana. Donc, et au fond, c'est son aptitude au bonheur, c'est son aptitude à faire la part des choses et au fond, à prendre les choses telles qu'elles sont. Et je crois que c'est une grande leçon qu'on a en bateau, nous, que sans doute les Indiens avaient dans leur rapport avec la nature, c'est une certaine capacité à prendre les choses comme elles sont et à se construire à partir de là. Et pas à dire j'aurais voulu que, ça aurait pas dû être comme ça, ça me plaît pas. Bah oui, mais ça plaît pas, mais la situation est ce qu'elle est. Et au fond, je crois qu'à la fin, elle s'est construite ses racines. Elle a trouvé ses racines qu'elle s'est faites elle-même à travers ses bonheurs et ses malheurs. Et du coup, elle est d'ici. Elle a une possibilité, un petit peu à un moment donné, de rentrer en Écosse. Et au fond, elle ne veut pas parce que c'est en Patagonie qu'elle a vécu. C'est en Patagonie qu'elle a construit son histoire. Et voilà, elle appartient à ce pays. Et c'est pour ça, c'est parce qu'elle fait... comment dire, c'est parce qu'elle a cette espèce de sagesse, au fond, d'accepter les gens et les choses et d'en faire son miel, qu'elle va trouver une certaine paix... sur la fin du roman.
Mais elle a commencé en fait avec, on va dire, bon, j'allais dire une erreur de jeunesse, mais non, plutôt une naïveté de jeunesse, puisque donc elle tombe amoureuse d'un Indien, d'un Eki. Justement, est-ce que vous pensez que c'est vraiment que de la naïveté qui ont fait que ce jeune Indien et cette jeune Écossaise ont cru que leur amour pourrait être possible dans un monde tel que celui-ci, ou était-ce parce qu'ils étaient en Patagonie?
Alors, je pense que si ces deux-là se trouvent, c'est qu'ils ont tous les deux, chacun de leur côté, cette même curiosité. Aneki est un Indien un petit peu particulier, puisqu'il lui est arrivé, ce qu'il est arrivé à un certain nombre d'enfants indiens, c'est qu'avant de s'implanter en Patagonie, les missionnaires anglicans étaient présents aux îles Malouines. Et ils enlevaient ou ils achetaient plus ou moins, on ne sait pas trop, des enfants qu'ils emmenaient plusieurs années chez eux aux Malouines, où ils essayaient de les éduquer, hein, de leur apprendre un peu l'anglais, de leur apprendre quelques petites choses. Ils les gardaient 3 ou 4 ans et après ils les renvoyaient dans les tribus. En se disant, ça va être, on aura comme ça ce qu'on appelait des truchements, c'est-à-dire des gens qui vont parler Yamana et anglais, qui vont nous connaître, et après, quand on va venir s'implanter, on aura déjà un certain nombre de gens comme ça un peu partout. Donc Aneki a vécu ça. Et il est intéressé par la société des Blancs. Il est intéressé par ce que les Blancs savent faire, par ce qu'ils pensent. Donc ils ont tous les deux cette curiosité. Au fond, lui est attiré par elle, non seulement parce qu'elle fait un pas vers lui, mais aussi parce qu'il est attiré globalement par cette civilisation, par cette société qui a débarqué peut-être de manière un peu violente, mais quand même qui présente beaucoup d'avantages. C'est beaucoup plus facile d'avoir une hache qu'un morceau de pierre taillée, hein, quand on veut fabriquer quelque chose. Donc lui, il a cette intelligence aussi. Donc c'est vrai que j'ai pris deux personnages qui étaient en quelque sorte les plus à même d'essayer d'aller vers un rapprochement et de se trouver et d'essayer d'imaginer quelque chose. En même temps, la réalité des choses qui fait que les Indiens ont disparu, me conduisait quand même un peu à ne pas pouvoir faire une happy end, parce que ça aurait été un peu tromper les lecteurs que de leur laisser penser qu'on aurait pu trouver, terme de passage, une vie qui serait un peu entre les deux, ce dont ils rêvent d'ailleurs, hein, tous les deux. Bon, ça n'a pas été possible, ça n'a pas existé dans la réalité. Là, c'est un peu la réalité qui rattrape la fiction quand même.
Effectivement. Mais justement, c'est ça qui... un peu au cœur de votre roman, ce sont donc deux civilisations qui se rencontrent, qui se jaugent, qui s'affrontent ou qui s'aiment parfois. Est-ce que, hors les limites du roman, est-ce que vous pensez que justement le choc des cultures est insurmontable ?
Alors, je ne pense pas qu'il soit insurmontable, mais je pense qu'il existe depuis des millénaires et qu'il continue à exister aujourd'hui. D'une certaine manière, ce roman aurait pu être un roman contemporain aussi. Hein. Dieu sait si des exclusions, des sociétés qui ont des valeurs très opposées et qui se renient les unes les autres, c'est encore un thème très actuel. Moi, ce que j'ai voulu, à travers ce roman aussi, c'est... il y a quelque chose qui me paraît important, c'est que tout ce que l'homme invente et pense est une richesse pour l'homme, pour tous les hommes. Et on ne sera jamais assez nombreux pour... imaginer le monde, pour penser la place des hommes dans le monde, la place des hommes entre eux, et qu'au fond, toute civilisation qui disparaît en emportant avec elle une certaine vision du monde, c'est une perte pour nous tous. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, où on se pose beaucoup de questions sur la nature, la vision de la nature qu'avaient ces peuples, même si elle n'est pas reproductible... eh ben, elle aurait sûrement été intéressante dans le débat. Enfin, je veux dire, voilà, elle aurait été une clé de compréhension peut-être de certaines choses qui aujourd'hui sont des problèmes insurmontables pour nous. Je crois que c'est encore vrai aujourd'hui. Renier une autre société, une autre civilisation parce qu'elle n'a pas les mêmes valeurs que nous, c'est renier les hommes en tant que tels. Donc je crois que c'est encore vrai. C'est pas toujours facile, c'est très difficile pour Aneki et Émilie, c'est très difficile pour tout le monde d'accepter que des gens ne pensent pas comme nous, ne vivent pas comme nous, ont des valeurs qui parfois sont très opposées. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais au moins écouter la parole, écouter la différence, qui nous interroge nous-mêmes sur nos pratiques, je crois que c'est très constructif. Et donc c'est un peu autour de ça aussi, il y a cette idée-là dans le roman.
Est-ce qu'il y a cette formidable, enfin moi en tout cas j'ai trouvé ça assez formidable, c'est que dans votre roman, et on nous montre rarement ça en littérature ou même au cinéma ou peu importe le genre, c'est que là donc voilà, on a deux civilisations qui se rencontrent et les deux civilisations réagissent à peu près de la même façon, c'est-à-dire que ils se trouvent très étranges, ils se trouvent même parfois moches, alors
oui,
que
mais ça c'est classique aussi, l'autre est toujours bizarre, c'est moi qui suis dans la normalité, l'autre est étranger, l'autre est étrange, et comme l'autre me fait un peu peur, forcément, c'est lui qui est pas beau, c'est lui qui est menteur, c'est lui qui est peut-être voleur, ou c'est lui qui a rien compris, ou c'est lui, voilà. Ça aussi, c'est encore quelque chose de très actuel. Et au fond, l'autre est comme moi, il est ni bon ni mauvais, il a ses tares, il a ses qualités extraordinaires. Et j'ai essayé dans le livre aussi de pas avoir de points de vue caricaturaux sur les personnages. Certains ont des points de vue très affirmés que on peut ne pas partager. Mais voilà, c'est des gens qui sont dans leur logique, qui pensent faire bien par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à ce qu'on leur a appris, par rapport à leur siècle. Et donc voilà, je crois que ça amène à relativiser.
Mais c'est vrai que, en général, on décrit beaucoup les sauvages, entre guillemets, mais on n'a jamais le point de vue du sauvage sur les colons, ou ceux qui viennent les envahir un peu. Et c'est ça que j'avais trouvé quand même assez perspicace, assez bien vu dans votre livre, c'est que eux aussi ont quand même ce regard sur les blancs qui arrivent
Bien sûr.
Et leurs craintes, quoi.
Bien sûr. Il faut imaginer, vous êtes là, puis un jour, il y a des bateaux qui arrivent avec des gens complètement différents de vous. Le tout début du livre, c'est un vrai témoignage que j'ai repris d'une indienne où elle raconte, alors c'est de la tradition orale, mais elle raconte ce qui s'est passé le jour où les gens de sa tribu ont vu arriver les premiers blancs sur un bateau. Et c'est extraordinaire parce que c'est effectivement totalement le symétrique de ce que pensent les blancs quand ils arrivent et qu'ils voient les Indiens. Et on est bien là dans à la fois de la curiosité, un certain intérêt, mais en même temps de la peur, en même temps de la méfiance, en même temps, on les trouve différents. Je trouve que ça, c'était très intéressant. C'est pour ça que j'ai voulu ouvrir le livre là-dessus.
Est-ce que vous accepteriez justement de nous lire un passage de votre roman
pour nous mettre un petit peu... À ce moment-là, ça va être ce début-là, alors, parce que je trouve que...
Impeccable, ça, voilà.
Alors, mamie met ses lunettes. Je suis Kushinskipa, du pays de Jeskumala, près, tout près du bout du monde. Je suis Kushinskipa. Kipa parce que je suis une femme, et Kushinsk parce que je suis née dans la baie des nombreux canards. Les miens m'appellent Kushi, et les autres m'ont appelée Rosie. Ce nom ne veut rien dire, mais je dois y répondre. Le récit dit que c'est l'un des pères de mes pères qui a vu les autres pour la première fois. Un jour ordinaire. Il avait plu toute la journée et le ciel fuyait en emportant à Caïnix l'arc-en-ciel. Sortant de la brume, il y avait cette immense baleine, si étrange, avec trois arbres plantés sur le dos. Mon peuple a bonne vue. Je peux encore à mon âge distinguer l'ombre du cormoran la nuit au creux des falaises. Le père de mes pères a crié qu'il voyait de gros oiseaux colorés de bleus et de rouges perchés partout. Tout le monde se pressait sur la plage. L'animal s'est approché près du rivage et a enfanté un petit sur lequel quelques-uns des oiseaux se sont posés. Quand ils ont touché terre, alors mon peuple entier a vu. Ce n'étaient pas des oiseaux, mais des êtres qui nous ressemblaient. Ils marchaient. Avaient deux bras, deux jambes et une tête. Mais leur corps était presque invisible, recouvert de ces peaux colorées qui les avaient fait prendre pour des oiseaux. Ils étaient terriblement laids, un peu plus grands que nous, mais surtout beaucoup plus massifs, sans rien de cette finesse qui fait la beauté des corps. La peau de leur visage était blême, comme celle des morts, et mangée par de longs poils. Certains avaient des yeux délavés, presque transparents, de ceux que l'on prête à y étater l'esprit mauvais de la terre. Ils portaient des bâtons luisants dans le timide soleil. À qui Inixe, l'arc-en-ciel n'est pas un esprit mauvais, il ne punit pas, il n'est pas signe de malheur. Alors le peuple des hommes a eu confiance et est resté sur la plage, par curiosité, mais aussi parce que c'est la règle d'accueillir ceux que la mer a apportés. Je suis Kushinskipa. Je vis loin de mon pays aujourd'hui, à plus d'une semaine de canoë. Le bateau des Blancs est arrivé avant l'aube. Tout était calme et limpide. Le soleil a glissé vers le ciel dans l'axe du canal. Dans le canot qui les a débarqués, il y avait une femme, une inconnue. J'ai des pouvoirs. Je suis une Yekamouche. Je fais partie de ceux qui savent parler aux esprits, alors j'ai vu. Du haut de la colline, si loin... J'ai vu et j'ai su qu'elle portait la tourmente.
Et c'est le début d'une grande aventure.
Voilà.
Donc justement, là, dans le passage que vous venez de nous lire, donc il y a cette jeune indienne qui parle et qui en fait confond le bateau avec une baleine qui aurait trois arbres. C'est vrai ça ou c'est vous qui l'avez
Alors,
imaginé?
Non, non, ça c'est un vrai témoignage que j'ai lu, qui avait été donc récupéré par des gens qui sont après les étudiants, enfin les ethnologues, les débuts de l'ethnologie. Et donc c'est un texte que j'ai retrouvé et que j'ai trouvé tout à fait intéressant. Et c'est pour ça que j'ai voulu ouvrir le livre là-dessus.
Mais ça a dû être un grand travail de recherche en fait pour écrire ce roman, puisqu'il y a donc... l'histoire, on va dire, de la colonisation, plus l'histoire surtout des Yamana dont vous parlez beaucoup. Comment vous avez mené vos recherches ?
Alors, il n'y a pas grand-chose en français. Un petit peu, il y a quelques textes un peu traduits. C'est surtout de la littérature en anglais et en espagnol, puisque ce sont les ethnologues fin 19e, début 20e qui ont commencé à venir. Et puis les pasteurs ont un peu écrit quand même. En particulier, il y a un texte d'un fils de pasteur qui est intéressant de ce point de vue-là. Donc voilà, donc j'ai lu un peu tout ce que je trouvais. Bon, les deux petits musées, où il y a quelques pointes de flèche, hein, et quelques photos de sauvages peints, comme on dit. Mais voilà, et après, quand même, quand le manuscrit a été fini, je l'ai fait relire par un historien qui est là-bas, qui est un spécialiste de la Patagonie, pour quand même vérifier que je n'avais pas dit de bêtises, quoi.
Et il a été satisfait ?
Oui, j'avais une remarque. Ah. À un moment donné, il y avait un lézard qui passait. Il m'a dit, les lézards, c'est rare, c'est très rare en Patagonie. Il y en a, mais c'est vraiment rare. Donc, elle aurait eu vraiment de la chance de trouver un lézard. Donc, j'ai supprimé le lézard.
Et pour revenir donc sur l'histoire de ces colons, en fait, qui font globalement, ils ne font pas beaucoup de preuves de tolérance, en fait. Est-ce qu'on peut déceler une sorte de morale dans votre roman ?
Bah, les colons, ils sont là pour deux raisons, en fait. Les pasteurs, donc pour évangéliser, hein, et puis les colons, et en particulier quand ça va être les Argentins et les Chiliens, pour utiliser les richesses de cette nature. En particulier, bien sûr, la pêche, à la baleine, au phoque, c'était très important. La ville de Bordeaux était éclairée au gras de baleine, hein, à la fin du 19e, donc c'était l'or blanc. On faisait des fortunes avec ça. Donc voilà, sauf que en tuant les baleines et les phoques, c'est une compétition alimentaire directe avec les Indiens qui s'en nourrissaient et qui n'ont plus ces sources de nourriture. Et puis après, petit à petit, on va couper la forêt pour installer des élevages, parce que dans les années, 1883 ou 4, un Français, le Tellier, va inventer le transport frigorifique. Et qu'à partir de ce jour-là, il va faire une expérience en ramenant de la viande d'Argentine en Europe. Et que ce jour-là, il va ouvrir la porte à la colonisation des Blancs de l'ensemble de la Patagonie pour installer des élevages, parce que tout d'un coup on a un débouché extraordinaire et ça va faire des fortunes. Et la laine d'un côté et la viande de l'autre vont pousser les colons et donc l'armée à évacuer les Indiens qui vont descendre tout au long de la Patagonie. Donc c'est vrai qu'on est quand même là sur vraiment de la prédation quand même, hein. Prédation des ressources ou prédation des esprits. Alors que les Indiens, qui n'étaient pas des tendres et qui se faisaient la guerre entre eux, voire qui se faisaient la guerre au sein des tribus, n'étaient pas dans cette idée de prédation de la nature. Au contraire, ils exploitaient avec beaucoup de parcimonie parce qu'il fallait que ça dure. Ils savaient bien que les ressources n'étaient quand même pas extraordinaires. Donc il y a quand même, oui, c'est sûr que les Blancs, même si c'était évidemment pas tous des méchants et des... globalement ont été prédateurs comme ils l'ont été dans beaucoup d'autres endroits du monde. Et en même temps, ils sont prédateurs, mais aussi ils sont fascinants. Et j'ai un peu aussi essayé de mettre ça en scène. Les Indiens sont quand même fascinés par ce que les Blancs amènent. Je parlais tout à l'heure des couteaux et des haches, les vêtements. Il se trouve que les Yamana, ils adorent le rouge, donc ils adorent les chiffons rouges, hein. Ils se partagent les vêtements en morceaux pour avoir chacun un petit bout. Oui, ils sont quand même... ils ont un intérêt aussi, à un moment donné.
Ils ont un intérêt, mais est-ce que, l'homme blanc, pour généraliser un petit peu... ne se sent pas un peu obligé de tout détruire sur son passage.
Ben ça, c'est on revient au débat. Je ne sais pas si je vais remettre ma casquette de présidente de l'IWWF, mais on revient au débat sur l'idée qu'on se fait et qu'on met en pratique à travers une société de la place de l'homme dans la nature. Est-ce que nous sommes supérieurs à la nature et que nous avons pour mission ou en tout cas pour opportunité de la dompter, d'en tirer des richesses et de s'en servir ensuite d'exutoire pour nos différents déchets, ou est-ce que nous participons de la nature, que nous sommes une espèce animale comme d'autres, un petit peu différente des autres, parce que nous, c'est le cerveau qui s'est développé et pas d'autres éléments de l'anatomie et de la physiologie, et que notre avenir passe par un pacte avec la nature, qui soit un pacte durable, c'est-à-dire à tous les niveaux, que ce soit des énergies durables, que ce soit des ressources durables, que ce soit évidemment des recyclages. La nature recycle tout, la nature ne jette rien. Elle utilise tout, la crotte de mouche est utilisée par les bactéries qui servent à, etc. Nous, on exploite et on jette, et on est linéaire dans notre utilisation de la nature. Et on voit bien, et on le sait tous, qu'aujourd'hui, on arrive aux limites un peu de ce modèle-là, parce qu'il commence à plus rester grand-chose à prendre, et on commence à avoir des problèmes avec ce qu'on a acheté, qui commence à nous poser des soucis de santé à nous. Donc, on ne va pas en revenir aux cailleurs chasseurs, bien sûr, mais je crois que notre avenir est vers une autre philosophie de la façon dont l'homme est au sein de cette planète. La planète, c'est de la physique et de la chimie, c'est pas des théories. Quand on me demande si je crois ou si je crois pas au réchauffement climatique, je dis que le réchauffement climatique, c'est pas une religion. Je n'ai pas à y croire ou ne pas y croire. C'est juste un phénomène physique. On prend du carbone dans la Terre, on le balance dans l'atmosphère. Donc ça, physiquement, ça a des conséquences. On trouve ça dommage ou on trouve ça très bien, peu importe, mais c'est la réalité des choses. Moi, je suis une scientifique à l'origine, donc forcément, je m'attache à ça. Et au fond... À travers ça aussi, c'est peut-être le message, s'il y en a un de ces peuples disparus, c'est de nous dire attention, au fond, le monde n'est pas si grand que ça. Le monde n'est pas si riche que ça en richesses naturelles, en opportunités, et nous devons en avoir une gestion harmonieuse, une gestion parcimonieuse, arrêter de gaspiller, et puis une gestion qui arrête d'être linéaire et qui commence à être circulaire, et donc qui nous permettent de recycler et donc de restituer à la nature ce qu'elle nous donne, et en même temps de ne pas impacter, par exemple, sur la biodiversité, sur les espèces dont nous avons besoin. Je crois que toutes les théories écologiques, elles s'appuient d'abord sur l'homme. C'est l'homme qui nous intéresse, oui. Au fond. C'est la survie de l'homme dans des conditions acceptables qui nous intéresse. Bien sûr, c'est sympathique, les ours blancs, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux ours blancs? C'est parce que s'ils disparaissent, c'est le signe que des mammifères supérieurs disparaissent. Et donc, quels sont les mammifères supérieurs qui sont les plus fragiles? Parce que nous sommes très fragiles. C'est quand même nous, d'une certaine façon. Donc voilà, donc c'est un peu cette idée d'équilibre et de changer de façon de penser. En même temps, j'ai bien conscience que c'est très difficile parce que on a plusieurs millénaires de pensée autre, de pensée de cette supériorité sur la nature et du fait que on va toujours arriver à gérer les choses et qu'on va mettre tout ça au carré, bien propre et qu'il n'y aura pas de problème, quoi. Donc voilà.
Mais ce qui est merveilleux, c'est peut-être de se dire que donc votre roman, qui est quand même parle énormément de nature, on voyage vraiment dans votre roman à travers cette Patagonie, à travers cette nature-là, peut-être deviendra le témoignage de ce qu'elle a été.
Je ne sais pas, j'espère que la Patagonie va rester encore longtemps comme ça. Ce sont des territoires très lointains, encore peu exposés, je dirais, à des grands passages. Il y a peu de grandes villes, il y a peu d'exploitation, c'est en train de venir. Hein. Du côté chilien, en ce moment, en Patagonie, il se passe des choses pas très reluisantes. Ils vont noyer des vallées entières pour faire de l'électricité qu'ils vont emmener à 4000 km de là pour fabriquer de l'aluminium. Enfin, ils sont dans des logiques comme ça qui ne sont pas du tout circulaires. Mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, quand même, quand on prend le temps de la Patagonie, quand on va farfouiller, quand on va se balader, quand on va en bateau, mais aussi à pied, à cheval, ou comme on veut, on est quand même dans une nature qui est encore très intacte, en tout cas qui ressemble encore beaucoup à ce qu'elle devait être il y a plusieurs milliers d'années, et c'est évidemment très, très saisissant.
Est-ce que vous seriez capable de tout abandonner justement pour en profiter et partir en Patagonie?
Non. Non, non, j'ai besoin d'être là aussi. Je fais plein de trucs géniaux ici. D'abord, il y a plein de gens que j'aime. Et puis je suis de mon temps, je suis de mon siècle, je suis de ma civilisation. Ça pourrait m'amuser pendant quelques semaines, Mais j'aurais besoin de livres, j'aurais besoin de parler avec des gens, j'aurais besoin de, voilà, de, d'un certain nombre de choses. Donc non, je pense pas, je suis absolument ravie d'y aller. Et simplement, la seule chose que j'essaye de faire, c'est d'y aller suffisamment longtemps. C'est-à-dire c'est ma façon à moi de respecter ce territoire. Je ne fais pas de zapping, je ne suis pas là-bas pendant 3 jours, 1 semaine ou 10 jours. Quand j'y vais 3 mois, j'y vais. Donc j'essaye de prendre le temps de rencontrer les gens. C'est pareil, les gens, ils ne sont pas à ma disposition. Une relation humaine, ça se construit. Je vais venir avec le bateau, on va discuter, puis peut-être je vais repasser, je vais leur amener des fruits et des légumes frais parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Et puis on va faire un asado, là, qui est le barbecue local. Et puis on va. Et puis je reviendrai l'année d'après. Et puis voilà, il faut aussi. Je trouve que la lenteur qu'on a beaucoup perdue parce qu'on est toujours tous trop pressés, pour moi, c'est quand même un peu la clé à la fois du respect des lieux et des gens et de la vraie construction de quelque chose. Parce que justement, on n'est pas dans l'éphémère et dans le superficiel, on est dans quelque chose qui se fait comme ça, avec des petites touches, et c'est vrai que c'est très agréable.
En tout cas, c'est sûr, vous n'êtes pas l'air d'être quelqu'un qui arrive à rester en place, en tout cas. Mais est-ce que justement, vous ressentez autant de plaisir en mer que dans un salon du livre, par exemple ?
Mais ça, enfin.
C'est deux choses
ça différentes. N'a rien à voir, évidemment. Moi, j'ai besoin de naviguer, quoi qu'il arrive. C'est prioritaire dans ma vie. Donc voilà. Donc j'ai dit ça à tout le monde, une bonne fois pour toutes. Je veux bien faire ce que vous voulez, sauf quand je suis en mer pendant 3 mois. Eh ben, vous vous débrouillez sans moi. Et la Terre tourne très bien, d'ailleurs. parce que c'est prioritaire. Parce que moi, ma vie tourne autour de ça et tout ce que j'ai fait tourne autour de la mer. Donc j'ai besoin d'être en mer. C'est ma construction première. Et puis après, à partir de là, j'ai essayé de développer plein de choses qui aujourd'hui, depuis que j'ai arrêté la course au large, sont plus dans une certaine forme de restitution, de socialisation, de comment dire, j'appartiens, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'appartiens à ma société, à mon époque, je ne suis pas un ovni comme ça. Et donc mon rôle, tel que je le conçois aujourd'hui, c'est d'être une sorte de passeuse. Les Indiens, leur passeur à eux, c'était les Yemakouches, c'était les chamans qui passaient avec les esprits. Donc moi, je passe pas avec les esprits, ça je sais pas faire. Mais je peux passer aux autres gens. Je peux partager les émotions de ces paysages, les intérêts pour ces cultures, les rêves, voilà. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une très grosse partie de mon activité, c'est ça. Ça va être de l'écriture, de la radio, de la scène, des conférences. Et pour moi, c'est important. C'est ma place dans la société. On a tous besoin d'avoir notre petit carré, hein, sur lequel on dit ça, c'est moi. Ben voilà, moi mon truc, ma place, c'est de passer des choses comme ça.
Donc Isabelle Autissier, allongée sur une plage en vacances, c'est pas possible.
Ben ça doit faire quand même à peu près 40 ans que c'est pas arrivé, quoi. Hein.
Et donc aujourd'hui, quels sont vos projets littéraires ou autres ?
Alors, les deux. Là, le prochain voyage en bateau, c'est cet été avec mon petit camarade Eric Orsena, avec qui nous avions déjà commis ensemble des navigations et un livre, puisqu'il était venu avec moi en Antarctique. Et que ça fait 3 ans qu'il me tâme en me disant quand est-ce qu'on repart, quand est-ce qu'on repart. Donc à la fin, comme il est casse-pied, on finit par lui dire oui. Et donc ça va être un très beau voyage, puisqu'on va partir détroit de Bering, Alaska. Donc aussi en bateau, en grande partie en bateau, côté américain cet été, côté russe l'hiver prochain. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, on est un peu l'un et l'autre fascinés par ces grands lieux. Et Bering est un grand lieu de passage, un grand lieu de civilisation, un grand lieu d'histoire, un grand lieu d'enjeux actuels, géopolitiques, d'enjeux de ressources, d'enjeux, voilà. Il y a des gens, moi j'y suis déjà allée une fois ou deux en Alaska, il y a des tas de gens très différents et assez rigolos qui habitent là-bas. Et donc c'est l'idée, voilà, on part cet été, cap sur l'Alaska.
Et donc ce sera un livre écrit à 4 mains.
Absolument.
Et vous le prévoyez pour quand ?
Si on travaille bien, fin 2013,
on verra. Ouais. On espère en tout cas que vous viendrez tous les deux venir nous le présenter ici.
Mais lui, il est pire que moi. Hein.
C'est-à-dire
Moi, je suis un peu suroccupée, mais alors lui, c'est méga occupé, quoi. Hein, ah. Mais bon, donc faut un grand fil à papillon pour le capturer, Eric.
Bon, on va commencer à préparer ça.
Mais on pourra peut-être y arriver
ça,
quand même.
Oui, on va construire ça vite fait. Là, on a un an pour le faire.
Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Isabelle Autissier.
Merci à vous.
Merci d'être venue.
Merci.